Alors, on était censé faire une conférence sur Howard en bande dessinée dans les années 70 avec les quatre éditeurs de Howard, donc à savoir les éditions Lug, les éditions Haredi, les Humano et l'Écho des Savannes. Voilà, comme je l'expliquais tout à l'heure, notre invité Jean-Pierre Denet a malheureusement eu des soucis de dernière minute qui font qu'il n'est pas là. On pensait bien se reposer avec François pendant cette demi-heure, puisqu'on était Jean-Pierre en pilote automatique et il pouvait nous parler jusqu'à la tombée de la nuit au minimum. Vous auriez appris plein de choses sur Howard et sur le reste. Bon, malheureusement, ça ne va pas se passer. Il marche une fois toutes les 10 secondes. Merci beaucoup. On va un petit peu écourter. Déjà, on commence avec 25 minutes de retard, donc ça va être facile, cette partie-là. Moi, j'étais censé faire le modérateur, donc du coup, je vais faire le lecteur, puisqu'à la base, moi, j'ai découvert Howard par les bandes dessinées. Et à côté de moi, j'ai monsieur François Truchot, qui lui a été indirectement impliqué à cette époque-là.
Je vais te récupérer le micro si tu as des petits soucis avec. Je vais essayer de régler les soucis. C'est peut-être simplement un problème de.
Il faut contact.
Comme ça. Donc je te laisse hurler pour que tout le monde puisse s'y prendre.
Je crie naturellement. Donc, disais-je, François, lui, a travaillé. Il a élaboré deux numéros de Special Award de l'Écho des Savannes qui ont été deux numéros historiques parce qu'il y avait quand même juste du très très grand gros monde au sommaire. Et Jean-Pierre Dionnet, donc par l'intermédiaire de Metal Hurlant, des Humanoïdes associés, ont publié deux albums très luxueux de Barry Smith en format géant qui sont absolument extraordinaires, avec des trades de, bon, on va dire, qui n'étaient pas forcément extraordinaires, elles. Mais voilà. Et en fait, ces quatre éditeurs-là ont en point commun d'être arrivés en France dans le milieu des années 70, à la première édition d'une nouvelle de Howard en bande dessinée en France, c'est 76. Alors, pour vous donner un petit peu le contexte général, il faut repartir quelques années en arrière aux États-Unis. En janvier 66, apparaît le premier volume de la collection Conan chez Lancer Books aux États-Unis. C'est un succès phénoménal. On parle, alors les chiffres varient puisque les comptes de la firme Lancer sont un peu bizarres, vu que ça servait à blanchir l'argent de la mafia apparemment. Mais le succès est phénoménal, on parle de millions d'exemplaires de vendus des Conan. Ça va intéresser au bout de quelques années une firme qui est alors en plein succès, qui est la Marvel Comics Group, que vous connaissez, qui publie à l'époque Fantastic Four, Spider-Man, Iron Man, etc. Il y a un jeune rédacteur en chef qui s'appelle Roy Thomas, qui lui est intéressé pour faire une bande dessinée un peu différente, pas du super-héros mais de la fantasy. Il contacte d'abord Lynn Carter, il voulait adapter Tom Gore, un truc... J'aurais jamais. Et parce qu'il est persuadé à l'époque que Conan, c'est beaucoup trop cher. Stan Lee, qui dirigeait Marvel, n'était pas super intéressé, pas super emballé. Je raccourcis l'histoire. Roy Thomas rencontre en contact avec Glenn Nord, qui est à l'époque l'exécuteur testamentaire des héritiers de Howard. Il va le voir et il lui propose. Stan Lee lui avait dit voilà, tu as le droit d'offrir $25 par page de droit. Roy Thomas arrive, il dit voilà, je vous offre $30. Il trouvait que l'offre était tellement ridicule qu'il avait augmenté de $5 de sa propre poche. Bref. Glenn Lord accepte, le comic s'est lancé, il va avoir beaucoup de mal au départ à démarrer, puisque Barry Smith, c'est un illustrateur qui aujourd'hui est une vedette aux États-Unis, en Angleterre, mais à l'époque c'est un sous-Kirby que personne ne connaît, il n'est pas cher, c'est son seul avantage, et c'est la seule raison pour laquelle il dessine Conan. Les premiers dessinateurs qui ont été envisagés, ce sont John Buscema et Jill Kane, qui sont eux des vétérans, des gens qui sont chevronnés, mais ils coûtent beaucoup trop cher. Donc du coup, on prend le jeune anglais qui coûte pas cher. Surprise, en 4-5 numéros, Barry Smith a un style qui se métamorphose, qui devient absolument extraordinaire. La bande dessinée est lancée en octobre 70. Au début, elle vivote pendant 5-6 numéros. Et au bout du 7e numéro, les ventes commencent à remonter. Et en 2 ans, elle va rafler tous les prix de l'époque. Ça devient un succès phénoménal. Barry Smith quitte la bande. C'est John Buscema qui va le remplacer. Pour beaucoup, John Buscema, c'est le dessinateur définitif, je vais dire, de Conan, celui en tout cas par lequel l'imaginaire de beaucoup de ceux qui ont découvert Conan en bande dessinée va se fixer. Il y a d'autres revues sœurs qui paraissent, donc Savage Tales tout d'abord en 70 aussi, Savage Sword of Conan en 74, et des éditions géantes qu'on appelle Marvel Treasury en 75. Grosso modo, Conan est partout aux États-Unis dans le milieu des années 70. En France, les premières bandes dessinées de super-héros paraissent à la fin des années 60 et elles sont elles ont une existence brève du fait de la censure et des lois de 49 sur les publications destinées à la jeunesse. Et il y a deux éditeurs qui publient globalement toute la production Marvel, c'est Aredi d'un côté, Aredi Artima, et Lug de l'autre. Et en 76, donc, il y a deux albums qui vont paraître, deux albums qui vont paraître quasiment en même temps. Le premier, c'est chez Lug, et le deuxième, c'est aux Humano. Donc, pourquoi est-ce qu'on a cette convergence-là? Tout simplement parce qu'à l'époque, aux États-Unis, Conan, c'est la série qu'il faut avoir lue. C'est la série qui marche, c'est la série phare, et donc automatiquement elle va intéresser des éditeurs français. Ce qui est assez inhabituel, c'est qu'elle va intéresser quatre éditeurs d'un coup. Donc le premier, c'est Lug, édition firme qui vient de Lyon. Les éditions Lug ont publié 9 albums et ils vont arrêter, ça ne marche pas. Donc pour la petite histoire, ils ne publient que des histoires tirées de la revue américaine Savage Sword of Conan, qui sont donc des histoires en noir et blanc, dessinées par John Buscema et ancrées pour la plupart par Alfredo Alcala, un ancrage qui est étonnant, mais qui marche vraiment très bien. Moi, j'ai découvert Howard avec ces adaptations-là, je trouve ça extraordinaire. Lug, éditeur frileux s'il en est, a peur de la censure. Donc, pour faire rapide, un album en France n'est pas soumis aux lois sur la censure, mais Lug a tellement peur de la censure depuis que la censure les a forcés à arrêter des revues à la fin des années 70, qui censure malgré tout les albums Conan. Et ça donne des choses ridicules. Dès qu'il y a une épée qui s'abaisse, vous imaginez Conan, donc avec des épées, du sang, les têtes qui giclent, enfin un truc léger, fin et printanier. Et il y a une case hyper célèbre, il y a Conan qui est sur une île, qui prend son épée, et puis là-bas, comme ça, son épée sur une sorte de grand singe velu qui a le bras. Si vous lisez la version française, on voit toujours, on voit l'épée qui fait comme ça, il y a le bras qui est là, et si vous voyez en bas de la case, il y a le bras du singe qui est par terre, parce qu'en fait, il l'a tranché. Mais chez Lug, ils ont redessiné le bras en oubliant de gommer le bras qui est en bas de la case. On voit juste comme ça. C'était assez marrant. La série ne marche pas, elle va s'arrêter en 79, 2-3 ans plus tard. Elle n'a pas marché, contrairement à Spider-Man, Les Fantastiques, etc., les autres séries de chez Lug. Mais pour beaucoup, et en tout cas pour moi, ça a été mon point de contact avec Howard, parce qu'à l'époque, j'étais ce qu'on appelle un Marvel zombie, j'achetais tout ce qui était Marvel, Spider-Man, etc. Et donc j'ai acheté un Conan, qui était le Royaume des Damnés, si je me rappelle bien. Et j'ai lu ça, et j'ai trouvé ça, mais nul. J'ai dit, c'est quoi ce truc avec un mec sans noir et blanc, il n'y a pas de super-héros, où est-ce qu'est Spider-Man, où est-ce qu'est New York. Mais vu que j'étais un Marvel zombie, j'achetais tout et j'achetais même le suivant. Et je trouvais ça génial. C'est comme ça que j'ai découvert Howard et après je me suis intéressé à tout ce que je pouvais trouver. Et au départ, ce qu'on pouvait trouver, on est en 77, fin 79, tout ce qu'on peut trouver, ce sont des bandes dessinées. Sauf que je voyais toujours d'après le personnage créé par Robert Howard. Ça m'intéressait. Et j'ai découvert Howard bien plus tard, grâce à cette mention créée par Robert Howard. Parce que je savais déjà que c'était des textes avant des bandes dessinées. L'autre éditeur qui s'y met en même temps, c'est Aredi Artima, qui va publier plein de petites bandes, alors dans des formats, dans plein de publications différentes. C'est remonté, c'est coupé, c'est assez bizarre, c'est assez amateur. Mais on trouvait plein de numéros, c'est l'avantage. Et le premier qui va vraiment essayer de faire quelque chose de très sympa en termes de format et d'adaptation, sont les Humano. Donc, à l'époque, François, tu travaillais déjà pour les Humano ou pas?
Oui, il me semble que c'était Québec.
76.
Un petit peu après, mais en fait, je connaissais.
Est-ce que tu sais comment ces albums sont...
Non, pas du tout.
Donc, c'est les albums. Il y a eu deux albums qui s'appellent Les Faucons des Mers et Les Clous Rouges. Ils adaptent Les Clous Rouges, la nouvelle de Conan, qui était parue en grand format quelques mois auparavant aux États-Unis. Et ils font une adaptation très, très grand format. C'est des albums qui sont aujourd'hui difficiles à trouver parce que, du fait de leur format, c'est très dur de les avoir en très bon état. Et ils sont les premiers à vouloir imposer Howard à un public, un grand public. Apparemment, je ne pense pas que ça ait beaucoup marché. Et c'est Philippe Manœuvre qui traduit.
C'est lui qui avait traduit.
Donc, tu ne les as pas lus, tu ne t'en rappelles, tu n'as pas de souvenir particulier là-dessus?
Non, pas vraiment.
Voilà. Bon, donc Manœuvre que vous connaissez aujourd'hui, puisque maintenant il s'est commis dans différentes émissions dont je ne connais pas le titre, hein. Mais à l'époque, il est le monsieur rock de Metal Hurlant. On le voit dans pas mal d'émissions, il fait les critiques de disques sur metal, sur rock folk, etc. Et il a livré une traduction de nouvelles de Conan que je traduirai de rock'n'roll. Je laisse lire. Et voilà. Troisième et dernier éditeur, c'est donc c'est l'Écho des Savanes. Alors, l'Écho des Savanes, c'est piloté par un monsieur qui s'appelle Farshid Barucha. Et monsieur Barucha, il a lancé une revue qui donc, s'appelle l'Écho des Savanes spécial USA. Parce qu'il y avait l'Écho des Savanes qui paraissait, qui publiait Mandrika, des choses comme ça. Et il s'intéresse énormément à la bande dessinée américaine. Il connaît beaucoup de gens, puisqu'il voyage très régulièrement aux États-Unis. Et il connaît Neal Adams, il connaît tous les grands auteurs des années 70 aux États-Unis. Et donc, il publie plein de bandes dessinées américaines qui étaient jugées trop adultes, violentes, transgressives pour les éditeurs plus classiques et plus sages comme Aridi ou comme Lug. Et là, il y a deux numéros Special Awards qui sont collectés, qui nous paraissent en 1978.
Je ne me souviens plus des dates, ça doit être ça, oui.
Et là, on a un monsieur qui est aux commandes qui s'appelle François Truchot.
Eh oui.
Alors, tu nous racontes tout ça?
C'est-à-dire que je traduisais à l'époque... Déjà pour l'Écho des Savanes, des petites bandes dessinées, je ne sais plus. Et puis avec Farshid Barucha, on avait sympathisé. Et il avait ce projet de Ward. Je pense qu'il avait dû lire ma préface pour L'Homme Noir, qui était paru juste un peu avant, si je ne me trompe pas.
76, oui.
Hein, 76, oui. Donc il m'a proposé de traduire. Il y avait deux numéros. Je pense qu'il y en avait un troisième où ce n'était pas intégralement Ward. Et les deux premiers numéros, c'était uniquement d'après des nouvelles de Ward. Donc ben, j'étais ravi, donc j'ai traduit ça. Puis c'était vraiment avec des auteurs fabuleux. Donc c'est très bien. Puis les adaptations des nouvelles de Ward étaient très, très, très fidèles aussi. Donc c'était vraiment un travail formidable.
C'est lui qui avait choisi les...
Ah oui, c'est lui.
Et donc toi, tu avais traduit ce qu'on te donnait, quoi.
Oui,
d'accord.
Ah oui, non, c'est lui.
T'en as profité pour faire des quelques pages, si je me rappelle bien, sur Howard, sur qui c'était.
J'ai fait une courte préface. Oui. Donc, et je pense que ça m'a servi par la suite quand les Oswald m'ont contacté. Parce que ils avaient dû lire la préface de L'Homme Noir et puis cette préface là aussi. L'Écho des Savanes qui servait à ça.
Donc à chaque fois, c'est que toi, tu fais un petit truc, un petit poème, une petite traduction d'un truc, et ça va t'amener sur la vidéo.
Ah oui, absolument. Ah oui, c'est vraiment des coïncidences, des rencontres. Parce que moi, j'avais écrit cette préface comme ça, pas pour m'amuser, mais bon, j'estimais que c'était nécessaire. Et puis après, ça avait des répercussions complètement dingues, quoi.
Complètement délirant. Et donc, à l'époque, là, maintenant, on est en 76, tu avais déjà fait paraître Howard, donc le masque, L'Homme Noir au masque...
Oui.
Donc déjà, tu étais devenu un fan et un fondu et tu essayais de voir, tu essayais de le faire paraître. D'accord. Et il n'y aura que deux numéros, enfin, c'est déjà pas mal, déjà, pour ces Échos des Savanes.
Voilà. Et il me semble qu'il y en a eu un troisième numéro, mais qui n'était pas intégralement de voir.
J'ai l'impression juste qu'il y avait. En tout cas, suffisamment pour que ça marche.
Ouais.
Toutes ces éditions-là ont en commun une chose, c'est qu'on est dans les années 70. Lux s'arrête en 79, les Humanos s'arrêtent en 76. La série de Chartima va durer, il y a différents formats, mais c'est toujours Chartima, ça va d'un côté, ça va de l'autre. Et l'Écho des Savanes, c'est 78, 79, machin comme ça de mémoire. Et en fait, ça n'a pas si bien marché que ça en termes de vente. Et elles ont un point commun, c'est qu'elles se sont arrêtées 2 ans avant la sortie du film de John Milius, qui, lui, de par sa simple existence même, a permis de pouvoir relancer toutes les séries de Conan en particulier en bande dessinée en France. Et depuis, c'est un flot ininterrompu. Il y a eu Mon Journal, Aredi, il y a eu tous les côtés. Il y a eu des rééditions à tour de bras. Mais c'est dans ce milieu-là, dans ces gens, on retrouve en fait la même population, j'allais dire. C'est toi, c'est Jean-Pierre Dionnet. C'est Druyé évidemment, puisqu'à l'époque c'était cette bande-là. Toute cette même bande qu'on retrouve qui est à l'origine de la publication de Ward dans les textes, qu'on va retrouver dans un petit milieu annexe, celui de la bande dessinée, avec toujours cette effervescence qui fait qu'on va pouvoir, qu'on va essayer en tout cas de faire paraître Ward en France dans une édition digne de ce nom. Et tous ces efforts-là, comme tu l'as très bien dit, vont nous amener à 79, et donc il sera le sujet de notre prochain débat, les années néo. C'est bien ça. Voilà, je pense qu'on a fait un rapide panorama de cet été. On est juste faire le plus bref possible, vu qu'on est que, grosso modo, on est que deux à parler. Si vous avez des questions sur cette époque-là, et sur, voilà, on vous écoute et on répond sans micro. Oui.
J'ai vu que vous êtes sorti chez Conan Marvel en gros format, en collier et tout, il n'y a pas très longtemps. Et je veux savoir si c'était les versions censurées ou des versions originales.
En France, hein?
Ouais, en France.
Je ne sais pas. C'est chez Soleil, je crois. S'il y a quelqu'un dans la salle qui sait, moi je ne sais pas.
C'est Panini.
Panini?
Non, c'est Panini, c'est Soleil. Il y a eu deux numéros et ça a été arrêté chez deux collecteurs. Maintenant, il y a les chroniques de Conan qui sont chez Panini, c'est l'intégrale. Ouais. Il prend la chronologie, puis comme disait Patrice, on prend les pages qui ont été censurées chez lui. Donc vraiment avec les dessins qu'on fait dans sur les joueurs de Conan, c'est pas trop mal fait. Après, certains critiquent un peu les réglages de luminosité sur les planches, elles sont un peu trop éclairées, on voit pas trop les dégradés dans. C'est intéressant d'avoir les premiers de chez Soleil, parce que moi je trouve que la mise en page est peut-être moins respectueuse de l'œuvre, mais au niveau de la mise en page, c'est beaucoup plus.
En tout cas, c'est une constante chez alors, c'est vrai aussi aux États-Unis. C'est autant pour les textes aux États-Unis comme en France, en amenant des vraies éditions, autant en termes de bande dessinée, pour moi, il n'y a aucune vraie réédition qui rende justice ce matériel, donc, que ce soit Buzzman ou Barry Smith.
Après, le mieux, c'est de récupérer les rééditions chez Dark Horse, qui reprennent tous les Savage Worlds of Conan. Et là, c'est carré, c'est carré.
En chronologie. Notre question ? Oui ?
Un peu ma question, de savoir si en VO, il y avait.
J'ai pas compris la question.
Je me demandais si il y avait une édition qui était en VO, en anglais, sur les schémas qu'on pouvait prendre.
Qui reprenait tous les numéros de Buzzman. Il en a fait des milliers de pages, hein. C'est énorme sa production. Il y a, pour moi, il y a effectivement les Savage Sword, les gros annuaires entre guillemets de chez Savage Sword qui font l'intégrale. Et la revue chez Dark Horse qui réédite la plupart, mais pas tous, des comics. Et là, ils ont plus les droits. Et moi, j'ai un vrai reproche à faire cette collection, c'est les couleurs. Ils ont appliqué des couleurs modernes que je trouve, restons polis, immondes sur ces trucs. Pour moi, il n'y a eu aucune vraie belle réédition en France de comics Conan, et même aux États-Unis. Et celle que j'aime bien, moi, la seule que j'aime bien aux États-Unis, c'est celle qui est parue il y a 20 ans chez Marvel, qui s'appelle Conan Saga. C'est une sorte de magazine qui reproduit les 20-30 premiers comics, donc les Barry Smith, au format noir et blanc, avec, enfin, c'est en noir et blanc, et c'est une très très bonne reproduction. Autrement, c'est à chaque fois, c'est immonde.
Ouais, je parlais bien des noir et blanc.
Ouais. Oui.
Du coup, on parle que des États-Unis et de la France, il y a eu je ne sais pas, en Angleterre.
Partout, mais si, dans le Conan est paru en Angleterre, dans des revues spéciales anglaises, une édition anglaise de Savage Sword, c'est paru dans tous les pays du monde. C'est Howard, dans les années 60-70, après Lancer, est publié partout. Il est publié dans les années 80 aussi, à une époque avant Internet, quand j'ai aidé Glenn Nord à récupérer les éditions de Conan et de Howard pour lui. Donc je lui cherchais des choses. J'ai trouvé des éditions dans des pays mais absolument incroyables. Howard était publié en Estonie, était publié en Russie à l'époque, quand il s'intéressait au marché de la Russie. À une époque, j'avais répertorié 97 recueils de nouvelles de Conan. Donc, écrites toutes en pirate, toutes par des auteurs russes. Il y en avait partout. Des éditions japonaises, des éditions chinoises. On trouve vraiment quantité de choses partout. Et en bande dessinée, ben c'est pareil. Parce que c'était la série avec Bosma qu'on trouvait dans tous les côtés. Dans tous les pays européens, il y a eu d'Amérique latine, de quasiment du monde, vous avez du Conan en bande dessinée, oui. C'est une série qui a très bien. C'était grosso modo vraiment la série phare de Marvel des années 70. Une fois que le Kirby est parti de Marvel, la fin de ce qu'on appelle le Silver Age Marvel, et la grande époque des Fantastic Four et de Spider-Man et des grands titres mainstream de Marvel, les années 70 a été beaucoup plus expérimental avec des séries un peu qui étaient un peu différentes. Et là-dedans, Conan menait la charge, très clairement. Ça a duré 10 ans, cette époque-là. Oui, encore
du coup, en fait, qu'en est-il des éclatements des droits pour les adaptations en bande dessinée? Parce que là, après, apparemment, les humains n'en ont eu. Les humains existent toujours. Est-ce qu'ils les ont encore?
Non. La question des droits. La question.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas la possibilité de faire une intégrale, parce que tu avais des
différents. Alors, tous les droits d'époque, les sessions, c'est une session complexe, donc je vais faire la version simple. Tous les droits d'époque. Appartenait à la Marvel, mais Marvel a perdu ses droits il y a une quinzaine d'années parce qu'ils ont oublié de renouveler. C'était à l'époque où Marvel était limite en train de faire faillite, hein, donc c'était il y a très longtemps. Parce que que maintenant c'est loin d'être le cas. Ils ont oublié de renouveler les droits, c'est pour ça que Dark Horse a pu les acheter pour une bouchée de pain. Donc aujourd'hui, les éditeurs français à l'époque, même s'ils avaient eu le droit de publier un tel, ils n'auraient plus ces droits aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut passer aux États-Unis par Dark Horse, qui est aujourd'hui encore, peut-être pas forcément pour longtemps, on va dire, la firme qui a tous les droits aux États-Unis sur le personnage dérivé, parce qu'ils ont récupéré les droits auprès de la maison mère qui gère tout ce qui est produit dérivé de Howard. J'essaie de répondre de façon un petit peu simple. La question des droits chez Howard et des produits dérivés n'est jamais simple. Je vous le dis. Jamais. Oui.
Est-ce qu'il en est aussi, parce que bon, il y a des connards, mais aux États-Unis, ils ont fait le mot, merci justement de vous dire ça. Ça va, c'est très simple. Il y avait énormément de choses. Il y avait Cool avec Séverine. Il y a eu Sam tout ça en BD.
Oui.
Qu'est-ce qu'il en est de ces droits-là?
Pareil, en fait, c'est la même chose. C'est le même. Alors non, il y a plusieurs sociétés qui existent, il y a un truc qui s'appelle, il y a Solomon Kane, je crois qu'il y a Kull Corporation, rien que le nom déjà ça donne envie, il y a Red Sonja qui n'appartient pas, alors Red Sonja le personnage de Ward, non, parce qu'en fait le personnage de Ward c'est un personnage d'une nouvelle historique, mais la Red Sonja de Marvel n'a jamais été créée par Ward, c'est la fameuse rousse en bikini d'acide qui rouille quand il pleut. Celle-là, elle appartient à je ne sais plus qui, mais pas aux mêmes ayants droit que Dynamic Forces. Et donc voilà ce qui fait que quand vous avez les rééditions chez Dark Horse, ils ne peuvent pas faire les crossovers avec Red Sonja parce qu'il y a jusqu'à quelques années, ils étaient en procès. Tu utilises mon personnage, je te mets un procès. Tu mets mon Conan, je te mets un procès. Enfin, un truc à l'américaine. Donc là, des fois, ils causent maintenant entre eux. Et donc, il y a chez Solomon Kane qui a son truc, Cull, enfin, il y a différents. Enfin, chez les Américains. Il ne peut pas y avoir de projet d'édition en France pour la bonne raison que tous les projets doivent passer par les États-Unis et ensuite par la France. La question des ayants droit en France n'a aucun intérêt en quelque sorte, puisque ce n'est pas eux qui décident. Il y avait encore une question. Ouais. Pardon, je suis en train de. Oui, ça serait génial pour arrêter le Cull de Bolton, mais ça avait été fait chez Delcourt il y a 20-30 ans. Il avait fait le Cull et puis il avait fait deux. Et Marada aussi. Marada, là-bas, c'est Red Sonja. Hein, donc. Oui, pardon.
Oui, un mot sur les bandes dessinées inspirées par l'univers de Howard. Je pense par exemple à Corben ou à ce genre de choses dont c'était de Marcel
Miller. Je laisse François pour parler de Corben.
Oui, bah, Corben, oui bah, les Humano avaient publié Godstar, donc Corben et Howard. Donc Corben s'était librement inspiré de Howard, oui. Tout en ayant fidèle, étant fidèle par certains aspects, et puis par d'autres qu'il avait complètement inventé. Okay, c'était vraiment une réussite, moi j'aime beaucoup. Ah oui, donc c'est. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je sais pourquoi. Dionnet aimait beaucoup Corben, il a publié plusieurs albums de Corben, donc celui-là était très bien, était très bon.
Après, oui, après, en inspiré, il y avait ça, il y a eu Almuri, Tim Conrad, il y a eu des choses comme ça. Quoi. Howard, je pense, a été. L'auteur qui, de par son style, ses thèmes, etc., a le plus inspiré les auteurs de BD américaines des années 70, parce que, et même encore aujourd'hui, il y a tellement de gens qui ont une approche qui peut être différente. Ce que j'aime, moi, ce que j'aime beaucoup dans cette approche-là, c'est qu'il y a plein de gens qui ont des approches différentes et elles fonctionnent. C'est un auteur qui est très facilement adaptable et pas forcément dans un style unique. C'est pas la peine forcément de faire du Buzzma ou du Subasma ou du Frazetta ou du Sous-Frazetta. Il y a énormément d'approches graphiques possibles. Sur les créations Howardiennes. C'est ça qui est sympa aussi. Ce qu'on voyait très bien dans tes échos des savanes, d'ailleurs, où on avait Neil Adams, Corben, ouais. Jeff Jones,
voilà, tous ces gens-là. Différent, et puis en même temps, c'était vraiment rendu magnifique.
Ouais. Wallace Wood, même à une époque, il y a vraiment pas mal de choses. Ouais. Allez, encore une dernière question, et après, on vous laissera faire une petite pause. Pas de questions. Une fois, vendu. Bien. On se retrouve, messieurs, dames, à 16h pour le gros morceau de la journée qui va être les années néo avec François et Jean-Michel Nicolet. On va faire un longue historique de ces éditions-là. Je vous rappelle que vous pouvez toujours aller vous boire une bière Howard à l'étage inférieur, venir nous parler. Il y a des bouquins à droite si vous voulez en acheter, à dédicacer, etc. J'ai quelques collecteurs que j'ai amenés si vous avez des sous à dépenser. Voilà, et on se retrouve très nombreux à 16h. Et en tout cas, merci encore de votre attention. J'espère qu'on aura un micro tout à l'heure.